Chapitre 4. De l'équateur aux lignes équinoxiales, ensemble des tempêtes, inconstance des vents, pluies infectes, chaleurs, soifs et autres incommodités que nous eûmes et endurâmes aux environs et sous Icelle. Pour retourner à notre navigation, notre bon vent nous étant failli à 3 ou 4 degrés au-deçà de l'équateur, nous eûmes lors non seulement un temps fort fâcheux, entremêlé de pluie et de calme, mais aussi selon que la navigation est difficile, voire très dangereuse auprès de cette ligne équinoxiale, j'y ai vu qu'à cause de l'inconstance des divers vents qui soufflaient tous ensemble, encore que nos trois navires fussent assez près l'un de l'autre, et sans que ceux qui en tenaient les timons et gouvernails eussent pu faire autrement, chacun vaisseau être poussé de son vent à part, tellement que, comme en un triangle, l'un allait vers l'est, l'autre au nord et l'autre à l'ouest. Vrai que cela ne durait pas beaucoup, car soudain s'élevaient des tourbillons que les mariniers de Normandie appellent grains, lesquels, après nous avoir quelquefois arrêtés tout court, au contraire, tout à l'instant, tempêtaient si fort dans les voiles de nos navires que ces merveilles qu'ils ne nous ont virées 100 fois les unes en bas et la quille en haut, c'est-à-dire ceux dessus-dessous. Au surplus, la pluie qui tombe sous et dans les environs de cette ligne, non seulement pue et sent fort mal, mais aussi est si contagieuse que si elle tombe sur la chair, il s'y lèvera des pustules et grosses vessies, et même tache et gâte les habillements. Davantage, le soleil est si ardent, qu'outre les véhémentes chaleurs que nous y endurions, encore parce que, hors les deux petits repas, nous n'avions pas l'eau douce ni autre breuvage à commandement, nous y étions si merveilleusement pressés de soif que de ma part, et pour l'avoir essayé, l'haleine et le souffle m'en étant presque failli, j'en ai perdu le parler l'espace de plus d'une heure. Et voilà pourquoi, en telle nécessité, en ces longs voyages, les mariniers, pour plus grande heure, souhaitent ordinairement que la mer fût muée en eau douce. Que si là-dessus quelqu'un dit, si sans imiter Tantale mourant ainsi de soif au milieu des eaux, il ne serait pas possible en cette extrémité de boire, ou pour le moins se rafraîchir la bouche d'eau de mer, je réponds que quelques recettes qu'on me peut alléguer de la faire passer par-dedans de la cire, ou autrement l'alambiquer, joint que les branlements et tourmentes des vaisseaux flottant sur la mer ne sont pas fort propres pour faire les fourneaux, ni pour garder les bouteilles de cassé, sinon qu'on voulût jeter les tripes et les boyaux incontinents, après qu'elle serait dans le corps, qu'il n'est question d'en goûter, moins encore d'en avaler. Néanmoins, quand on la voit dans un verre, elle est aussi claire, pure et nette extérieurement qu'eau de fontaine ni de roche qui se puisse voir. Et au surplus, chose de quoi je me suis émerveillé et que je laisse à disputer aux philosophes, si vous mettez trempé dans l'eau de mer du lard, du hareng ou autre chair et poisson tant salés puissent-ils être, ils se dessaleront mieux et plus tôt qu'ils ne feront en l'eau douce. Or, pour reprendre mon propos, le comble de notre affliction sous cette zone brûlante fut tel qu'à cause des grandes et continuelles pluies qui avaient pénétré jusque dans la soute, notre biscuit étant gâté et moisi, outre que chacun en avait bien peu de tel, encore nous le fallait-il non seulement ainsi manger pourri, mais aussi sous peine de mourir de faim et sans en rien jeter, nous avalions autant de verre dont il était à demi que nous faisions de miettes. Outre plus, nos eaux douces étaient si corrompues et semblablement si pleines de verre que seulement en les tirant des vaisseaux où on les tient sur mer, il n'y avait si bon cœur qu'il en cracha. Mais qui était bien encore le pis, quand on en buvait, il fallait tenir la tasse d'une main, à cause de la puanteur, boucher le nez de l'autre. Que dites-vous là-dessus, messieurs les délicats, qui, étant un peu pressés de chaud, après avoir changé de chemise et vous être fait bien testonner, aimez tant non seulement d'être à quoi en la belle salle fraîche, assis dans une chaire ou sur un lit vert, mais aussi ne sauriez prendre vos repas, sinon que la vaisselle soit bien luisante, le verre bien fringué, les serviettes blanches comme neige, le pain bien chapelé, la viande, quelque délicate qu'elle soit, bien proprement apprêtée et servie, et le vin ou autre breuvage clair comme émeraude. Voulez-vous, vous allez rembarquer pour vivre de telle façon? Comme je ne vous le conseille pas, et qu'il vous en prendra encore moins d'envie quand vous aurez entendu ce qui nous advint à notre retour, aussi vous voudrais-je bien prier que quand on parle de la mer, et surtout de tel voyage, vous n'en sachant autre chose que par les livres, ou qui pisait, en ayant seulement ouï parler à ceux qui n'en revinrent jamais, vous ne voulussiez pas, ayant le dessus, vendre vos coquilles, comme on dit, à ceux qui ont été à Saint-Michel. C'est-à-dire qu'en ce point, vous desserrassiez un peu et laissassiez discourir ceux qui, en endurant tels travaux, ont été à la pratique des choses, lesquels, pour en parler à la vérité, ne se peuvent bien glisser au cerveau ni en entendement des hommes, mais, ainsi que dit le proverbe, qu'ils aient mangé de la vache enragée. À quoi j'ajouterai, tant sur le premier propos que j'ai touché de la variété des vents, tempêtes, pluies infectes, chaleurs, que ce qu'en général on voit sur mer, principalement sous l'équateur, que j'ai vu un de nos pilotes, nommé Jean de Main, d'Harfleur, lequel, bien qu'il ne sût ni A ni B, avait néanmoins, par la longue expérience avec ses cartes, astrolabes et bâtons de Jacob, si bien profité en l'art de navigation qu'à tout coup, et nommément durant la tourmente, il faisait taire un savant personnage que je ne nommerai point, lequel, cependant, étant dans notre navire, en temps calme triomphait d'enseigner la théorique. Non pas toutefois que pour cela je condamne, ou veuille une façon que ce soit blâmer les sciences qui s'acquièrent et apprennent dans les écoles et par l'étude des livres, rien moins, tant s'en faut, que ce soit mon intention. Mais bien requérais-je que, sentant m'arrêter à l'opinion de qui que ce fût, on ne m'allégua jamais raison contre l'expérience d'une chose. Je prie donc les lecteurs de me supporter si, en me ressouvenant de notre pain pourri et de nos eaux puantes, ensemble des autres incommodités que nous endurâmes, et comparant cela avec la bonne chair de ces grands censeurs, faisant cette digression, je me suis un peu coléré contre eux. Au surplus, à cause des difficultés susdites et pour les raisons que j'en dirai plus amplement ailleurs, plusieurs mariniers, après avoir mangé tout leur vivre en ces endroits-là, c'est-à-dire sous la zone torride, sans pouvoir outrepasser l'équateur, ont été contraints de relâcher et retourner en arrière d'où ils étaient venus. Quant à nous, après qu'en telle misère que vous avez entendue, nous eûmes demeuré, viré et tourné environ 5 semaines alentour de cette ligne, en étant finalement peu à peu ainsi approchés, Dieu, ayant pitié de nous et nous envoyant le vent de nord-nord-est, fit que le 4e jour de février nous fûmes poussés droit sous Icelle. Or, elle est appelée équinoxiale pour ce que, non seulement en tout temps et saison, les jours et les nuits y sont toujours égaux, mais aussi parce que quand le soleil est droit en Icelle, ce qui advient 2 fois l'année, à savoir le 11e de mars et le 13e de septembre, les jours et les nuits sont aussi égaux par tout le monde universel, tellement que ceux qui habitent sur les 2 pôles arctique et antarctique, participant seulement ces 2 jours de l'année du jour et de la nuit, dès le lendemain, les uns et les autres, chacun à son tour, perdent le soleil de vue par 2 millions. Ce 10 jours, donc, 4e de février que nous passâmes le centre, ou plutôt la ceinture du monde, les matelots firent les cérémonies par eux accoutumées en ce temps fâcheux et dangereux passage, à savoir, pour ceux qui n'ont jamais passé sous l'équateur, les lier de cordes et plonger en mer, ou bien, avec un vieux drapeau frotté au cul de la chaudière, leur noircir et barbouiller le visage. Toutefois, on se peut racheter et exempter de cela, comme je fis, en leur payant le vin. Ainsi, sans intervalle, nous cinglâmes de notre bon vent de nord-nord-est jusqu'à 4 degrés au-delà de la ligne équinoxiale. De là, nous commençâmes de voir le pôle antarctique, lequel les mariniers de Normandie appellent l'étoile du sud, alentour de laquelle, comme je remarquais dès lors, il y a certaines autres étoiles en croix qu'ils appellent aussi la croisée du sud. Comme au semblable quelque autre a écrit que les premiers qui de notre temps firent ce voyage rapportèrent qu'il se voit toujours, prédit celui pôle antarctique, au midi, une petite nuée blanche et 4 étoiles en croix avec 3 autres qui ressemblent à notre septentrion, or il y avait déjà longtemps que nous avions perdu de vue le pôle arctique, et dirai ici en passant que non seulement Ainsi qu'aucun pense, et semble aussi par la sphère se pouvoir faire, on ne saurait voir les deux pôles quand on est droit sous l'équateur, mais même n'en pouvant voir ni l'un ni l'autre, il faut être éloigné d'environ 2 degrés du côté du nord ou du sud pour voir l'Arctique ou l'Antarctique. Le 13e jour du 10 mois de février, que le temps était beau et clair, après que nos pilotes et maîtres de navire eurent pris hauteur à l'astrolabe, ils nous assurèrent que nous avions le soleil droit pour zénith, et en la zone si droite et directe sur la tête qu'il était impossible de plus. Et de fait, quoique pour l'expérience nous plantassions des dagues, couteaux, poinçons et autres choses sur le tillac, les rayons donnaient tellement à plomb que ce jour-là, principalement à midi, nous ne vîmes nul ombrage dans notre vaisseau. Quand nous fûmes par les 12 degrés, nous eûmes tourmente qui dura 3 ou 4 jours, et après cela, tombant en l'autre extrémité, la mer fut si tranquille et calme que durant ce temps, le vaisseau, demeurant fixe sur l'eau, si le vent ne se fût élevé pour nous faire passer outre, nous ne fussions jamais bougés de là. Or, en tout notre voyage, nous n'avions point encore aperçu de baleines. Mais outre qu'en ces endroits-là, nous en vîmes d'assez près pour les bien remarquer, il y en eut une, laquelle, se levant près de notre navire, me fit si grand peur que, véritablement, jusqu'à ce que je la vis mouvoir, je pensais que ce fut un rocher contre lequel notre vaisseau s'alla heurté et brisé. J'observai que quand elle se voulut plonger, levant la tête hors de la mer, elle jeta en l'air par la bouche plus de 2 pipes d'eau, puis en se cachant, fit encore un tel et si horrible bouillon que je craignis d'erchef qu'en nous attirant après soi, nous ne fussions engloutis dans ce gouffre. Et à la vérité, comme il est dit au psaume et en Job, c'est une horreur de voir ces monstres marins s'ébattre et jouer ainsi à leur aise parmi ces grandes eaux. Nous vîmes aussi des dauphins, lesquels, suivis de plusieurs espèces de poissons, tous disposés et arrangés comme une compagnie de soldats marchant après leur capitaine, paraissaient dans l'eau être de couleur rougeâtre, et il y en eut un, lequel, par 6 ou 7 fois, comme s'il nous eût voulu chérir et caresser, tournoya et environna notre navire. En récompense de quoi, nous fîmes tout ce que nous pûmes pour le cuider prendre. Mais lui, avec sa trompe, faisant toujours dextrement la retraite, il ne nous fut pas possible de l'avoir.